Salve Caere, bonjour et bienvenue sur Vox Latina, l'émission qui parle de l'Antiquité au lycée Bossier. Au programme du jour, la nourriture, et on commence par Noémie, qui nous présente de délicieux plats.
Merci Rose. Donc pour commencer, les Romains se nourrissent essentiellement de graines pour les populations dans sa globalité, pour les plus pauvres. Les plats sont très variés, ils mangent essentiellement tout ce qui peut être facile à manger, à portée de main, et qui s'accompagnerait généralement avec du pain. Le régime des Romains plus aisés, donc, quant à eux, est plus varié. Ils mangent beaucoup de féculents, de légumes, de produits laitiers, beaucoup d'huile d'olive et bien évidemment du poisson qui a une place très importante dans leur régime. On peut d'ailleurs difficilement passer à côté du garum, qui est l'ancien ketchup des Romains. C'est une sauce à base de poisson sauvage fermenté et de sel, souvent de poisson blanc et carnassier, qui mettent absolument partout dans leurs plats. Sans oublier le vin paillé et le vin blanc, qu'ils utilisent souvent dans tous les desserts et dans les plats à base d'eau. Le vin qu'ils utilisent est très doux à côté de ce qu'on connaît essentiellement aujourd'hui. Il est utilisé pour les conservations de produits, pour l'alcool, mais aussi et pour et surtout dans l'eau qui à cette époque n'est pas traitée. En exemple d'entrée typique des Romains, il y a le gustum praecoquis, une entrée aux abricots plongée dans du garum évidemment encore une fois. Pour le plat principal, on a notamment la patena des aspergia frigida, qui sont des cailles sur omelette, froude aux asperges à base de vin, d'huile d'olive, comme cité précédemment. En plat de poisson, on a l'ius in pisci rubellione, donc rouge et grillé, sauce vin paillé. En dessert, on a l'apoternum, une semoule au lait et aux fruits secs avec des produits laitiers, de miel, pour le côté sucré du coup, de l'huile d'olive, du vin, du poivre gris et des amandes. Donc pour le nom de ce dessert, ça signifie après le bain parce que les Romains le prennent généralement juste après être sortis du bain.
Merci Noémie, maintenant nous accueillons Leïna pour nous parler du vomitorium.
À votre avis, qu'est-ce qu'un vomitorium ?
Un endroit où se faire vomir ?
Eh bien, en effet, dans la culture populaire, un vomitorium est une pièce où les Romains de l'Antiquité se rendaient pour vomir leur repas avant de pouvoir retourner à table et festoyer. Ils se faisaient vomir pour manger et manger pour se faire vomir. Cette salle aurait été utilisée lors des orgies romaines, où les convives s'enfonçaient une plume jusqu'à la luette pour régurgiter la nourriture.
Burk !
Cette idée est popularisée par le roman comique d'Aldous Huxley, Cercle vicieux. Ce vomitorium symbolise tout ce que l'on imagine sur la décadence romaine, de la gourmandise et du gaspillage mis en scène dans la saga Hunger Games de Suzanne Collins, où les riches habitants du Capitole boivent une boisson rose pour se faire vomir lors des fêtes et ainsi manger plus.
Cependant, la véritable histoire des vomitoriums est bien moins répugnante. Pour les Romains, les vomitoriums étaient les entrées et sorties des stades ou des théâtres en raison de la façon dont ils déversaient la foule dans les rues, du latin vomitere, qui signifie expulser. L'accès aux gradins se faisait par des vomitoria de deux types. Un grand vomitorium qui dessert les gradins du podium en alternance avec des plus petits modèles. Voilà qui combat les idées reçues.
À présent, parlons un peu des différents mythes de nourriture. Nous sommes en présence d'une experte en mythologie. Dis-moi, de quel mythe vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Commençons d'abord par évoquer le régime alimentaire de Cronos. Comme tous les dieux, vous penserez sûrement qu'il buvait et mangeait nectar et miel. Mais que nenni ! Prévenu qu'un de ses enfants le détrônerait de la même façon qu'il avait détrôné et tué son père, il décida que le miel et le nectar, ça allait bien 5 minutes, et devint alors carnivore. Ainsi, à chaque fois que sa femme Rhea donnait naissance à un enfant, il le dévorait. Après 5 enfants mangés, Rhea, prise d'une certaine lassitude, lui donna une grosse pierre que Cronos prit pour son dernier fils, Zeus, et il mourut. Comme quoi, la paternité, ça s'apprend.
Ah oui, pas cool le paternel.
Nous allons à présent parler d'un crime commis par la plupart des héros de la mythologie grecque, à savoir l'hubris. Il était une fois Tantale, roi de Phrygie, qui, un jour, organisa un dîner chez lui et invita les dieux. Comme il n'avait pas d'idée de repas, il décida de faire un ragoût de son propre fils Pélops. Pourquoi, me direz-vous ? Tout simplement pour piéger les divinités.
Quelle mauvaise idée !
Les dieux, légèrement énervés, décidèrent de condamner Tantale à un terrible supplice. Il vivrait éternellement au milieu d'un cours d'eau avec une branche chargée de fruits au-dessus de la tête. Néanmoins, à chaque fois qu'il voudrait étancher sa faim ou sa soif, l'eau disparaîtrait, ainsi que la branche. Encore aujourd'hui, l'expression « le supplice de Tantale » signifie que l'on désire quelque chose, mais que c'est inaccessible. Finissons par une histoire d'amour. Tout le monde connaît le mythe d'Hadès, dieu des enfers, qui enleva Perséphone à sa mère Déméter et l'emmena aux enfers. Néanmoins, savez-vous ce qu'il s'est passé ensuite ?
Non, mais je suis sûre que tu vas me le dire.
Exactement. Zeus, assez mécontent de ce kidnapping, ordonna à Hadès de ramener Perséphone. Problème, la belle était tombée amoureuse de son ravisseur. Ainsi, peu avant son départ, elle décida de manger de la grenade. Et là, vous allez certainement me dire, pourquoi de la grenade ? Tout simplement car la grenade était un aliment qui appartenait aux enfers. Et les règles sont strictes. Quiconque mangera un aliment des enfers sera condamné à y rester. Zeus, pris au dépourvu, autorisa les amants à se retrouver uniquement une partie de l'année, en automne, car elle n'avait mangé qu'un bout de la grenade. Perséphone devrait donc rejoindre sa mère durant les mois restants.
Mais ça ne ressemble pas au syndrome de Stockholm, ça ? Tu sais, la victime qui tombe amoureuse de son ravisseur ?
Bah oui, totalement. Mais ça, c'est une autre histoire.